Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Musique. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 13 Azar 1399 du calendrier iranien, 3 décembre 2020. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Iran réaffirme sa solidarité avec la Palestine. Malgré les pressions et les sanctions, la marche en avant de l'Iran se poursuit dans tous les domaines, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. Covid-19, première vaccination au Royaume-Uni et en Russie la semaine prochaine. Et encore, Covid-19, la situation en Iran s'améliore. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Nos ennemis, au cours de cette décennie, ont mobilisé toutes leurs forces pour faire pression sur le peuple iranien pour qu'il se rende. Depuis les trois années de 2018 à 2020, ils ont fait de leurs sanctions une guerre économique à part entière, a rappelé le président iranien Hassan Rouhani lors d'une réunion du cabinet. Le président Rouhani a poursuivi. Pourtant, nous pensons qu'avec la défaite de cette guerre et l'échec de la politique de pression maximale, la situation sera différente l'année prochaine. Non pas parce qu'il s'agissait des politiques erronées de Trump contre l'Iran, parce que tout un gouvernement républicain ou démocrate au pouvoir aux États-Unis finirait par se rendre au peuple iranien en raison de l'échec fatal de la guerre économique et de la pression maximale, a-t-il souligné. Le Royaume-Uni et la Russie ont annoncé qu'ils comptaient commencer à vacciner leur population contre le Covid-19 dès la semaine prochaine grâce au développement des vaccins Pfizer-BioNTech et Sputnik V. Le gouvernement britannique est le premier à approuver l'utilisation massive du vaccin américano-allemand qui répond à des normes strictes de sécurité, de qualité et d'efficacité et sera disponible la semaine prochaine dans le pays le plus endeuillé d'Europe, avec près de 60 000 morts. Quelques heures seulement après l'annonce britannique, le président russe Vladimir Poutine a demandé que les vaccinations à grande échelle, gratuites pour les Russes, commencent à la fin de la semaine prochaine. Le Sputnik V, développé par le centre de recherche russe à Moscou, et dans la troisième et dernière phase d'essai, auprès de 40 000 volontaires. Ses créateurs le disent efficace à 95%, comme le vaccin Pfizer-BioNTech. En Iran, le ministre de la Santé a déclaré que la situation sanitaire sur le front de l'épidémie de COVID-19 s'améliore. Saïd Namaki a déclaré « Nous remercions Dieu que la situation de la maladie dans le pays, en particulier dans les villes où des restrictions avaient été imposées en novembre, s'améliore. Heureusement, en raison des mesures de quarantaine, le nombre de morts diminue et les effets positifs des nouvelles restrictions seront palpables dans les semaines à venir. Selon un dernier bilan, un total d'environ 990 000 personnes en Iran ont été infectées par le virus mortel de COVID-19. Sur ce nombre, environ 680 000 ont été rétablies et près de 49 000 personnes sont décédées. L'armée américaine poursuit son retrait d'Afghanistan, où le président Donald Trump ne souhaite laisser que 2 500 soldats à la mi-janvier 2021, a indiqué le plus haut gradé du Pentagone, alors que des négociations de paix sont en cours entre les deux parties. L'administration de Donald Trump a décidé de ne conserver au 15 janvier que 2 500 soldats dans le pays contre environ 13 000 il y a un an. Ce contingent réduit permettra aux États-Unis d'y conserver deux bases principales ainsi que plusieurs autres secondaires, a déclaré le général Mike Milley. Le gouvernement éthiopien a accordé aux Nations Unies un accès humanitaire sans restriction à la région septentrionale du Tigré à l'issue de 4 semaines de conflits armés et de demandes répétées pour y acheminer de l'aide. Un accord signé par l'Organisation des Nations Unies et le ministre éthiopien de la paix, consulté mercredi par l'agence France Presse, accorde un accès sans restriction, continu et sécurisé du personnel et des services humanitaires aux populations vulnérables dans les régions gérées par le gouvernement au Tigré et dans les zones frontalières des régions Amhara et Afar voisines. 20 000 mercenaires et forces étrangères sont toujours en Libye. Quelques 20 000 forces étrangères et mercenaires sont toujours en Libye en dépit de l'accord de cessez-le-feu signé au mois d'octobre, a déploré l'émissaire de l'Organisation des Nations Unies par intérim, poignant une violation choquante de la souveraineté libyenne. Il y a aujourd'hui 10 bases militaires en Libye totalement ou partiellement occupées par des forces étrangères. C'est ce qu'a déclaré l'Américaine Stephanie Williams, représentante spéciale de l'Organisation des Nations Unies par intérim. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Deux autorités s'y disputent le pouvoir sur fond d'implications étrangères. Le gouvernement d'union nationale à Tripoli, reconnu par l'Organisation des Nations Unies, est soutenu militairement par la Turquie et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar en fort de l'Est, appuyé par les Émirats arabes unis, la Russie et l'Égypte. Et enfin, les députés israéliens ont adopté, lors d'un vote préliminaire, une motion de l'opposition appelant à la dissolution du Parlement et à la convocation de nouvelles élections législatives. 6 mois après sa formation, le gouvernement d'union de Benjamin Netanyahou et Benny Gantz a fait un premier pas mercredi vers sa chute lors d'un vote préliminaire des élus appelant à la dissolution du Parlement et la convocation de nouvelles élections en Israël. La motion a obtenu 71 votes favorables, y compris celui de Benny Gantz, tandis que 54 députés ont voté contre, selon la Knesset, parlement du régime sioniste. À la suite de ce vote, la motion de l'opposition peut désormais être débattue en commission parlementaire, ouvrant la voie à une dissolution de la Chambre et à la convocation de nouvelles élections, les quatrièmes en moins de 2 ans en Israël. Le président iranien Hassan Rouhani a réaffirmé le soutien de l'Iran à la nation palestinienne dans la poursuite de ses aspirations légitimes, exhortant la communauté internationale à adopter des mesures décisives contre les politiques agressives et inhumaines du régime d'occupation israélien. Le président Rouhani a fait ses remarques dans un message à l'Assemblée générale des Nations unies à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Il a dit que le peuple palestinien opprimé avait souffert sous l'occupation du régime sioniste pendant plus de 7 décennies. Israël, a-t-il ajouté, a également intensifié sa politique raciste et ses crimes organisés contre les Palestiniens, en faisant avancer le programme d'annexion, en tuant des innocents et en maintenant les sanctions contre le peuple de Gaza au milieu de la pandémie de coronavirus. L'occupation israélienne a entraîné des conséquences tragiques, parmi lesquelles plus de 5 millions de réfugiés palestiniens, l'expansion des colonies en Cisjordanie et à Quds, le nettoyage ethnique des Palestiniens et le blocus cruel de la bande de Gaza, a affirmé le président iranien. Tel Aviv a en outre pris des mesures importantes pour changer le statut démographique et géographique de Quds occupée en soutenant les extrémistes sionistes dans la violation des droits des Palestiniens et l'expulsion forcée des non-juifs, a-t-il ajouté. Une telle approche, a-t-il dit, vise à judaïser la ville de Quds et à détruire ses caractéristiques historiques et islamiques afin d'occuper pleinement les terres palestiniennes et d'empêcher son peuple de retourner dans son pays d'origine. La République islamique d'Iran estime que ces mesures non seulement détériorent considérablement la situation dans les territoires occupés, mais ont également de graves conséquences sur la sécurité régionale et internationale, a déclaré le président de la République islamique d'Iran. Malheureusement, toutes ces actions ont lieu alors que la communauté internationale n'a pris aucune mesure efficace pour mettre fin à cette tragédie et restaurer les droits des Palestiniens sans défense, a-t-il ajouté. En outre, le président iranien s'est plaint qu'Israël a intensifié ses actions inhumaines contre les Palestiniens en raison du soutien qu'il reçoit de quelques membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. M. Rouhani a également averti que l'entité occupante mettait en danger la paix et la stabilité au Moyen-Orient en faisant progresser la production secrète d'armes de destruction massive et en adoptant des politiques régionales agressives, en particulier en Syrie et au Liban. La République islamique d'Iran demande instamment à la communauté internationale de de prendre des mesures contre les décisions illégales prises par le régime sioniste qui viole de manière flagrante les droits de l'homme ainsi que les résolutions des Nations Unies, a-t-il déclaré. Ailleurs dans son message, le président Rouhani a évoqué les accords de normalisation qu'Israël a récemment signés avec les États de la région, affirmant qu'il s'agissait d'accords artificiels sur les relations bilatérales qui ont été établis précédemment et ont été récemment révélés. Les pactes de paix, a-t-il dit, sont considérés comme une trahison à la cause palestinienne et sont condamnés par l'Iran et tous les Palestiniens. Nous sommes fermement convaincus qu'une solution juste pour la question de la Palestine ne peut être obtenue par la normalisation des relations avec le régime israélien, a déclaré le président Rouhani. Au contraire, une telle solution peut être obtenue en renforçant l'unité entre les pays islamiques et la communauté internationale, tout en prenant des mesures décisives contre les politiques agressives et inhumaines de ce régime.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cet attentat terroriste qui a coûté à un savant nucléaire iranien, M. Fakhrizadeh. Les autorités militaires, les autorités géopolitiques ont souligné sur la nécessité de se venger, de venger la mort en martyr de ce savant nucléaire iranien, M. Fakhrizadeh. Les parlementaires iraniens ont approuvé un plan de double urgence qui enjoint au gouvernement iranien d'accélérer le processus des activités de nucléaires iraniennes si les parties signatrices de ce qu'on appelle l'accord nucléaire iranien de 2015 refusent toujours d'honorer leurs engagements pour la levée des sanctions pour la vente du pétrole iranien. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Pour entamer notre débat d'aujourd'hui, on va partir tout de suite à Toulouse pour rejoindre un spécialiste français des questions internationales qui est avec moi au téléphone. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Nerostine, bonjour à tous nos auditeurs et vraiment un grand merci pour de nous avoir invités pour cette une grande affaire là, de l'assassinat de M. Fakhrizadeh.
Merci. Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet après cet assassinat. L'Iran dit de s'arroger le droit de riposte. C'est l'Iran qui a mobilisé ses moyens politique. Je viens de faire allusion tout à l'heure à ce plan de double urgence qui avait été voté par les parlementaires iraniens et également de s'arroge le droit sur le plan militaire. Je viens de faire allusion à cette prise de position des autorités militaires iraniennes, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Salami, le ministre iranien de la Défense, le général Khatami, qui, après cet assassinat, ils ont insisté sur la nécessité de riposter, de fournir une riposte digne de non foudroyante à cet assassinat. Et comment expliquez-vous, en fait, cette prise de position du côté de Téhéran en ce qui concerne, si vous voulez, les responsables politiques et militaires, M. Dortiguier ?
C'est-à-dire qu'il est entendu qu'il est tout à fait normal, disons, que l'attentat contre ce physicien soit compris justement comme une attaque de l'Iran même, c'est-à-dire attaque contre ses contre sa volonté de défense, de se défendre, de se perfectionner dans ce sens-là, non seulement dans le domaine atomique, comme on le dit, mais également d'autres domaines, dans s'occuper de grands physiciens en question, à savoir la lutte, la défense anti-aérienne, et ainsi de suite. Mais ceci, c'est un aspect que je dirais être extérieur, tout à fait normal. C'est une réaction nationale, disons, à une atteinte portée à la nation, à l'intégrité de la nation, à la sécurité de la nation. Il y en a un deuxième que j'évoque très rapidement, M. Norostin, c'est, je dois dire qu'ayant suivi une actualité depuis déjà le début des années 2010, j'ai observé que ces attentats dirigés contre des ingénieurs de haut rang iraniens, je me souviens de trois d'entre eux, de trois attentats en tout cas, contre leur voiture avec des moyens perfectionnés et autres, supposent qu'il y a aussi, implique qu'il y ait des organisations intérieures qui soient, disons, capables de couvrir ceci, disons, et donc il semble qu'il faille qu'il y ait, que le corps iranien doive avoir deux yeux, un tourné vers l'extérieur du pays et l'autre tourné à l'intérieur du pays, car la sécurité extérieure dépend également de la sécurité intérieure et vice-versa.
Mais la sécurité intérieure, M. Dortiguet, est pleinement assurée. Qu'entendez-vous par, en fait, de cette sécurité intérieure, M. Dortiguet ?
Bien sûr, elle est assurée sur le plan formel, nous n'en doutons pas. Mais il est certain qu'il y a, à notre avis, c'est le sentiment en tout cas que nous avons eu dès le début de ces premiers attentats d'autrefois, qu'il y a, disons, que l'audace des adversaires de l'Iran, audace incarnée par exemple par M. Netanyahou, qui avait cité le nom donc, de M. Farizadeh, en disant qu'il fallait retenir ce nom, vous vous souvenez de cela, je crois que c'est en 2018 qu'il a dit, eh bien, ils ne peuvent avoir cette insolence que s'ils savent pouvoir compter sur une minorité, que je dis minorité, disons, sur l'existence de groupes qui peuvent, disons, sans lesquels une telle agression, disons, ne serait pas possible. Et je crois que sans cela, les adversaires de l'Iran n'auraient pas cette insolence. Donc la sécurité intérieure signifie, que je pourrais traduire ainsi, signifie qu'il faut également avoir non pas un regard répressif, mais un regard attentif contre des groupes, bien sûr, ou des gens qui, finalement, ont vendu leur âme au diable, vous savez, c'est-à-dire sont des traîtres. Bien, écoutez, il n'y a pas d'autre mot. Hein, même qu'il y a des vivants et des morts, il y a des patriotes, il y a des traîtres. Et je dois dire que l'audace des ennemis de l'Iran, disons, joue là-dessus. Et je dois dire que c'est ce qui fait leur insolence, c'est ce qui fait que M. Netanyahou, par exemple, a pu même, voyez-vous, brandir le nom de ce physicien martyr. C'est quand même
là, vous faites allusion, M. Dortiguet. Là, vous faites allusion aux actes de sabotage qui sont menés en fait depuis la victoire de la révolution islamique d'Iran de 1979 par les États-Unis et leurs alliés, très particulièrement le régime israélien. Vous faites allusion à ce point.
Ce sont des actes de sabotage et nous savons que c'est continu, que depuis la victoire, c'est-à-dire cette victoire de la révolution n'a jamais été acceptée et à travers elle. Ils ne cherchent pas, comme ils disent eux-mêmes, un changement de régime seulement. Ce n'est pas le régime qu'ils appellent clérical ou autre. Ce n'est pas ça qui les touche. Ce qui les touche, c'est la capacité d'indépendance et la puissance présente et future de l'Iran. Alors là, ils peuvent trouver tous les arguments possibles et imaginables, mais en fait, c'est la puissance. Donc, ils en veulent non pas à la forme du gouvernement iranien, ils en veulent à l'existence même du pays.
Merci beaucoup, monsieur Eliatem, juriste français spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre pour cette émission Le Débat par Skype depuis Paris. Maître Atem, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation et bonjour à monsieur Dortiguet.
Maître Atem, venez d'entendre les explications de monsieur de Dortiguet. L'Iran a mobilisé de ses moyens politiques et diplomatiques et également, au cas échéant, mobilisera ses moyens militaires pour riposter à cet assassinat lâche de ce savant nucléaire iranien, M. Fakhrizadeh. Autrement dit, l'Iran est déterminé à punir les auteurs et également les commanditaires de cet assassinat de lâche terroriste. Comment vous l'expliquez? Quelle évaluation portez-vous sur cette détermination du côté de Téhéran, Maître Atem, s'il vous plaît?
Vous savez, cet acte-là, c'est un acte terroriste. Deuxièmement, il faut, d'un point de vue juridique, il constitue une agression telle que l'agression est définie par la résolution du Conseil de sécurité et particulièrement plutôt de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ceci dit, pour chaque acte d'agression, on peut avoir un recours, juridique devant les juridictions internationales et devant les Nations Unies. Alors, le problème qui se pose, malheureusement, et c'est moi qui le dis, parce que du fait de ma proximité de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros-Ghali, malheureusement, le droit international public n'est plus respecté et c'est son existence même qui est mise en cause. C'est le retour, malheureusement, à la jungle internationale parce que nous voyons les choses telles quelles sur la scène internationale. Quand on voit les agressions, par exemple, américaines, par-ci, par-là, les agressions des alliés des États-Unis, que ce soit Israël, que ce soit la Turquie, qui aujourd'hui également menace l'est de la Méditerranée, et il n'y a jamais de sanctions à l'encontre de ces actes-là et des auteurs de ces actes-là parce qu'ils sont proches des États-Unis, parce que les États-Unis exercent une hégémonie sur l'organisation mondiale, ce qui fait que le droit international public n'est malheureusement plus appliqué. C'est ce qui conduit à des ripostes, je dirais, des représailles qui sont prévues également par le droit international public, ce qui explique également la position iranienne. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce que les téléspectateurs et les analystes, les observateurs doivent comprendre de cette réalité, qu'aujourd'hui, quand je le disais et quand je le dis, on me traite de complotiste, mais c'est la réalité sur le terrain. Il y a un travail d'organes, d'une machine, des services secrets qui opèrent dans la région du Proche et du Moyen-Orient, que ce soit en Iran et ailleurs. Vous savez, l'Iran quand même est un État qui est doté d'institutions assez fortes. C'est un pays où vraiment on compte, on fait ses comptes avant de commettre un acte sur place. Alors que dire des autres pays? Et c'est ce que justifie, par exemple, quand j'expliquais l'attentat qui a été commis, l'explosion à Beyrouth, l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre, qui ont été faits par les services secrets, par le Mossad israélien, qui a des moyens sur les terrains et qui dispose d'agents sur le terrain. Quand on voit que le Mossad a disposé d'une complicité à l'intérieur même de l'Iran, que dire alors du Liban? Que dire de la Syrie? Que dire des autres endroits de la région? J'appuie également, et si vous le permettez sur ce point-là, Monsieur Dortiguet, c'est que l'objectif américano-israélien, ce n'est pas le changement d'un régime, soit en Iran ou en Syrie ou au Liban, mais c'est la création du chaos et c'est la provocation de la régression de ces civilisations et ces pays qui sont millénaires pour pouvoir les dominer et les soumettre, car c'est là le projet du judaïsme politique et donc du sionisme et des alliés de ce courant politique, c'est soumettre les gens. Nous l'avons vu également aujourd'hui avec cette politique de normalisation avec l'entité sioniste, c'est que tout a été fait pour soumettre ces pays. Et encore une fois soumis, on finit pas leur trancher la tête. C'est ce qu'avait dit à l'époque, d'ailleurs, Donald Trump en parlant de l'Arabie Saoudite. C'est comme une vache à traire. On prend son lait et une fois qu'elle n'a plus de lait, on lui tranche la tête. Eh bien, ça, c'est l'objectif de la politique israélo-américaine. Je ne dirais pas américano-israélienne, parce que la politique étrangère américaine est téléguidée par le lobby sioniste qui est dans son intérêt de détruire, de soumettre l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient après les avoir provoqués chez eux une régression qu'on la voit aujourd'hui sur le terrain, problème de pauvreté, problème économique, problème financier. Et puis, ce qui justifie également l'existence d'agents qui vont travailler pour le compte des services américains ou les services israéliens et commettre ces crimes.
Monsieur Tortillier, je viens de faire allusion à ce plan de double urgence qui a été voté par le Parlement iranien. Ce plan de double urgence doit être confirmé également par le Conseil des gardiens de la Constitution pour devenir en fait effectif. Mais dans ce plan, les parlementaires iraniens s'adressent aux signatrices de l'accord nucléaire de 2015. Très particulièrement les Européens et également. L'Europe, M. Dortiguet, a condamné, c'est vrai, cet assassinat de terroriste de ce savant nucléaire iranien, mais le temps n'est-il pas venu, M. Dortiguet, pour l'Europe pour en fait joindre, si vous voulez, de paroles aux actes également, M. Dortiguet, Européens émettent des communiqués, mais il faut le dire, face aux États-Unis, également face de temps en temps au régime israélien, il y a quand même ce manque d'indépendance politique du côté de l'Europe, M. Dortiguet, n'est-ce pas?
Oui, en effet, c'est une juger, mais c'est une excellente formule, dire que c'est un manque d'indépendance politique de la part des Européens. Disons qu'ils n'ont pas de conséquences. Ils ne tirent pas une conséquence entre leurs paroles et leurs actes. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche cette conséquence, ce passage de la parole, de la pensée, à exprimer ainsi, à des actes forts qui permettraient à la fois, à l'avantage de l'Europe et à l'avantage de l'Iran et d'autres pays, disons, d'établir des relations stables et bénéfiques, autant aux Européens qu'à ces pays-là. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est uniquement, à notre avis, essentiellement, disons, la faiblesse financière de plus en plus grande de l'Europe. C'est-à-dire, celle-ci est plongée, on le voit aujourd'hui, à travers des mesures, disons, de plus en plus contraignantes, puisqu'on peut être des arguments sanitaires, mais enfin, on parle d'un fameux reset, c'est-à-dire d'une sorte de rétablissement, enfin, de réorganisation, si je puis dire, de la société, avec, mettons, une sorte de diminution des capacités de la classe moyenne, par exemple, des petites entreprises et autres. Et ceci ne peut qu'affaiblir l'Europe. Si elle est entre les mains, justement, des grands groupes financiers internationaux. Et je crois que c'est cela que l'on sous-estime beaucoup. Nous avons le prestige de nos anciens États, bien sûr. Nous avons en même temps donc fait une grande chose, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre, depuis surtout le général de Gaulle chez nous, cette réunion franco-allemande, etc., cette réunion de l'Europe, qui est une très bonne chose. C'est une union des énergies, si je puis dire. Disons que comme il y a une faiblesse, il y a, comme on dit, un ver dans le fruit. Ce ver dans le fruit, c'est la faiblesse financière économique qui nous met entre les mains, justement, d'escrocs internationaux et de terroristes. Parce que, vous savez, le terrorisme, l'escroquerie est une forme de terrorisme contre notre économie. Mais, par exemple, quand nous voyons l'entité sioniste avoir une influence très grande dans les institutions européennes, quand on voit même tous ces gens qui ont formé cet État, qui ont été formés à l'école du terrorisme, qui ont enseigné même à nos propres cadres militaires comment former des terroristes, c'est-à-dire avec Daesh et autres. Vous savez, il y a une grande tradition terroriste. Vous savez, elle ne date pas d'il y a 40 ans ou 30 ans. Elle est très ancienne. Elle s'est exercée en Russie, elle s'est exercée en Europe même. Vous savez, avec le bolchevisme, par exemple. Eh bien, ceci, voyez-vous, nous montre notre propre état de faiblesse. Vous avez raison de le souligner. C'est l'intérêt des Européens de condamner le terrorisme. Mais sont-ils forts Il ne s'agit pas simplement de condamner une maladie. Il faut également avoir une santé sociale, physique, morale. Et ceci, malheureusement, nous la perdons progressivement dans le monde occidental. Nous avons des, vous savez, des proclamations comme celle de M. Macron, par exemple, qu'il a faite contre ce fameux droit au blasphème et autres, chose qui aurait été inimaginable chez nos anciens présidents, par exemple. Eh bien, nous y arrivons parce que nous perdons, disons, une confiance en nous-mêmes et en même temps la vue de grands idéaux. Nous marchons au petit futur et guidés justement par des financiers, eux, qui, en arrière-plan, dictent leurs lois et veulent former, disons, une sorte de société, disons, qui est évidemment une société, une sorte d'esclavage moderne, si vous voyez, voyez-vous, et avec le terrorisme leur sert de toile de fond pour pouvoir, justement, chez nous-mêmes en Europe, intimider les gens. Le terrorisme n'est pas seulement dirigé contre certains pays, il est dirigé en général, en fait, contre tous les pays. C'est une manière mondiale de gouverner. C'est pour ça qu'on les appelle des globalistes, des mondialistes. Ce sont en réalité, qui s'appellent des néoconservateurs américains, qui s'appellent des trotskistes ou des antifascistes, voyez-vous, je cite tous ces noms. Ils ont en réalité, comme M. Soros, par exemple, ils ont en réalité le terrorisme comme arme, comme intimidation. Ils ne veulent pas gouverner le monde, ils veulent intimider le monde.
Maître Atem, venant en fait de l'évoquer tout à l'heure, voilà, l'objectif, c'est de créer le chaos au Moyen-Orient. Et l'idée ne date pas, Maître Atem, d'aujourd'hui ni d'hier, mais ça date d'avant-hier, Maître Atem. L'idée en était surtout abordée par la secrétaire d'État américaine de l'époque, Condoleezza Rice, en disant que voilà, la politique américaine consiste en fait à créer un chaos constructif dans la région du Moyen-Orient. Maître Atem, étant parfaitement conscient de ce point auquel venait en fait de faire allusion, l'Iran dit être déterminé à punir les auteurs, également les commanditaires. J'insiste sur le mot commanditaire de cet assassinat terroriste qui a coûté la vie à ce savant nucléaire iranien, Maître Atem.
Oui, effectivement, c'est que ce qu'il faut, vous avez très bien mis l'accent sur il ne faut pas punir l'exécutant, mais c'est le commanditaire, c'est-à-dire celui qui est derrière, celui qui provoque. Et je prends peut-être un petit exemple de ce qui se passe en Europe. En Europe, en particulier en France, il y a des actes de terrorisme qui sont commis par des types qui sont, qu'on les retrouve, la plupart du temps on les exécute, on les attrape pas vivants, je ne sais pas pour quelle raison, et sinon on les condamne, mais on ne cherche pas qui sont leurs commanditaires, autrement dit qui est la personne qui est derrière et qui les pousse à provoquer ces actes-là de terreur, parce que le terrorisme, c'est un acte de terreur qui fait peur et qui exerce une pression sur des gouvernements, sur des États, sur des décideurs, afin qu'ils prennent soit des décisions qui sont en faveur de la personne qui provoque ces actes-là, ou bien ne pas prendre certaines décisions. Et d'ailleurs, on voit, c'est pour cette raison d'ailleurs, que si vous le permettez, je reviens à ce qu'a dit M. d'Artiguet, c'est très intéressant, c'est qu'en Europe, en particulier en France, et on exerce deux types de terrorisme. Il y a le terrorisme matériel, c'est-à-dire ces actes, soit des explosions, des attentats, soit des meurtres attribués à des terroristes qui exercent cette peur, cette crainte sur les décideurs politiques, ou bien il y a également, je dirais, un arsenal juridique et surtout aussi médiatique qui crée un terrorisme intellectuel et un terrorisme psychologique qui fait peur à certains. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, si vous avez bien noté, c'est que en Europe et en France en particulier, on a très peu évoqué cet acte terroriste qui a conduit à l'assassinat de M. Varghizadeh en Iran. Pour quelle raison? Parce que les médias en France sont placés sous le contrôle d'un certain lobby, de certains groupes de pression qui gomment en fait certaines informations. Alors ça n'aurait pas jamais été pareil s'il y avait un responsable israélien assassiné dans l'entité, au sein de l'entité israélienne, ou l'entité sioniste, par un Palestinien. Tout cela pour vous dire, et on m'a traité de complotiste, on a monté toute une cabale contre moi parce que j'ai évoqué cela sur une chaîne de télévision et parce que j'ai dit la vérité, c'est qu'aujourd'hui les pouvoirs publics en Europe, en France et puis dans le monde en fait occidental qui est sous le joug de ces groupes de pression ont peur, sont sous ce poids terroriste, je dirais, psychologique ou bien matériel avec ces actes-là qui lui font reculer. Et cela qui a une conséquence également sur les institutions et les instances internationales qui malheureusement ne font plus leur travail, ce qui justifie cette décision iranienne d'avoir recours à des moyens de riposte pour pouvoir d'une manière proportionnelle établir cet équilibre et répondre en fait à cet acte d'agression dont ils ont été victimes.
Maître Eliatem, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris par Skype. Mes vifs remerciements vont également à Pierre Dordiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission au téléphone depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
L'idéologie est la pratique des courants takfiristes. Massacre au Nigeria. Au moins 110 civils tués dans une attaque des terroristes takfiristes. L'attaque s'est produite ce samedi dans une rizière. Figurent notamment, parmi les victimes, des dizaines d'ouvriers agricoles. Samedi 28 novembre, au moins 110 civils ont été froidement tués alors qu'ils travaillaient dans leurs champs, selon un nouveau bilan des Nations Unies. C'est l'attaque la plus meurtrière menée contre les civils cette année dans le nord-est du Nigeria, en proie à une insurrection takfiriste depuis plus de 10 ans. L'attaque s'est déroulée le jour des élections locales dans cet État, les premières organisées depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009. Depuis cette date, on dénombre plus de 36 000 tués et plus de 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. Le 28 novembre, en début d'après-midi, des hommes armés sont arrivés à moto et ont mené une attaque brutale sur des hommes et des femmes qui travaillaient dans des champs à Koshobe, a déclaré dimanche le coordinateur humanitaire de l'Organisation des Nations Unies au Nigeria, Edouard Kalon. Au moins 110 civils ont été froidement tués et de nombreux autres blessés dans cette attaque, a-t-il ajouté. L'attaque s'est produite dans une rizière située à moins de 10 km de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, épicentre de l'insurrection takfiriste. Le mois dernier, 22 agriculteurs avaient déjà été tués dans leurs champs, non loin de cette ville. Les agriculteurs, pêcheurs ou bûcherons sont régulièrement pris pour cible par les takfiristes qui les accusent de transmettre des informations à l'armée ou de ne pas payer l'impôt takfiriste, obligatoire pour exercer une activité économique dans certaines zones de l'État de Borno. Samedi, le responsable d'un groupe d'autodéfense pro-gouvernementale avait fait état de 43 morts. « Nous avons retrouvé 43 corps sans vie. Tous ont été égorgés », avait déclaré Babakoura Kolo. C'est sans doute l'œuvre de Boko Haram qui opère dans la région et attaque fréquemment les agriculteurs. Ses 43 premières victimes ont été enterrées dimanche dans le village voisin de Zabarmari, en présence du gouverneur de l'État de Borno. Les recherches d'autres victimes dans ces eaux marécageuses et difficiles d'accès se poursuivaient. Le gouverneur avait affirmé dimanche que 70 agriculteurs avaient été tués. Figurent notamment parmi les victimes des dizaines d'ouvriers agricoles originaires de l'État de Sokoto, à environ 1000 km à l'ouest, qui s'étaient rendus dans l'État de Borno pour trouver du travail dans les rizières. Le président du Nigeria a condamné samedi soir le meurtre de ces agriculteurs dévoués à leur travail par des terroristes dans un communiqué. Le pays entier est blessé par ces assassins insensés, a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a également réagi sur Twitter. « Je suis profondément choqué par cette nouvelle autre horrible attaque ciblant des civils innocents dans le nord-est du Nigeria », a-t-il écrit. L'attaque est survenue le jour des élections des représentants et conseillers régionaux des 27 circonscriptions de l'État du Borno, un scrutin repoussé depuis 2008 pour des raisons de sécurité. Depuis plusieurs mois, les autorités encouragent les personnes déplacées à retourner dans leur village, affirmant qu'il n'est pas possible financièrement de les prendre en charge dans des camps protégés par l'armée et où ils vivent de distribution alimentaire. Les quelques 2 millions de déplacés du conflit n'ont plus d'accès à leurs champs et dépendent presque entièrement de l'aide humanitaire pour survivre. Mais un nombre d'entre eux ont regagné leur village dans des opérations de relogement organisées par l'État du Borno. Ces communautés rurales sont confrontées à des épreuves indicibles. Les aider à cultiver des terres et à reconstruire leurs moyens de subsistance constitue le seul moyen d'éviter une crise alimentaire imminente dans l'État de Borno, a mis en garde l'Organisation des Nations Unies dans son communiqué. Le conflit qui dure depuis plus de 10 ans a créé une crise humanitaire dramatique, récemment aggravée par de mauvaises récoltes et des restrictions liées au coronavirus. Environ 4,3 millions de personnes ont été victimes d'insécurité alimentaire en juin 2020, durant la période de soudure. L'Organisation des Nations Unies prévoit que ce chiffre augmente de 20% l'année prochaine à la même saison. Plus de 30 ans après la fondation d'Al-Qaïda et plus de 9 ans après la mort de son chef Oussama Ben Laden par les forces spéciales américaines au Pakistan, le réseau takfiriste sème toujours la terreur. Il reprend même de la vigueur en attirant les anciens membres de Daesh vaincus en Irak et en Syrie en 2017. Ses attentats les plus violents, il les commet néanmoins au Sahel où il dispose d'environ 5000 combattants. En face, les troupes françaises et leurs alliés de la force Barkhane peinent à endiguer sa progression en dépit de quelques succès. Mathieu Guider, spécialiste du terrorisme takfiriste, dit « Depuis la découverte des documents internes d'Al-Qaïda dans la cache de Ben Laden au Pakistan, nous savons précisément comment fonctionne l'organisation. Ben Laden dirigeait de près la structure. Il rédigeait des notes, interrogeait les responsables régionaux, suggérait des alliances. Son successeur, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, poursuit dans la même lignée. Mais s'il n'intervient pas sur l'aspect tactique des opérations, il définit la stratégie et demande des comptes à ses affiliés, notamment sur le financement et le choix des cibles. Nous sommes face à une organisation centralisée et militaire, contrairement à une idée reçue, celle d'un label qui reviendrait des groupes locaux. Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, est la plus active avec sans doute la filiale du Yémen, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, ACPA. Cela dit, la seconde n'a pas autant d'exposition médiatique en raison de la guerre au Yémen qui brouille les choses. Mais elle commet également beaucoup d'attentats. Plus de 70 000 membres. Je dirais qu'ils sont actuellement deux fois plus nombreux que les forces de Daesh. À la chute de Daesh, 1500 combattants tunisiens sont rentrés au pays. Les deux tiers ont été emprisonnés, mais il en reste un tiers dans la nature. Ce sont ces 500 individus qui posent problème. Les autorités tunisiennes ont exercé une telle pression sécuritaire qu'une partie a fui vers l'Italie en se mêlant aux migrants. Depuis, comme il leur est difficile de s'ingérer au sein des mafias italiennes, ils convergent vers Nice, en France, où existe déjà une importante communauté tunisienne. Une fois sur place, les plus radicaux passent à l'action.
Thank you.